Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu et ce que ce matin Dieu a mis sur mon cœur. Je priais, cherchais un message et c'est sûr qu'il y a des réflexions, des thèmes déjà partagés assez récemment. Je réfléchissais, je dis est-ce qu'il y a un message que j'ai apporté dans les dernières semaines que je voudrais apporter ce matin, mais Dieu m'a mis sur le cœur, c'est quelque chose que j'avais déjà réfléchi il y a quelques années comme cela, mais un texte et un passage de la Bible, j'aimerais partager avec vous, et de réfléchir sur le thème comment réagir face à la souffrance. Parce que le croyant, bien qu'il ait un grand Dieu à qui rien n'est impossible, traverse des moments de souffrance. Dieu est là, il est sur son trône, il règne, il gère. Amen. Et lui, il est invariable. Il ne change pas. Ni même une ombre de variation, la Bible nous dit. Même pas la tentative de changement. Il est là, le même, il ne bouge pas. Ça nous amène à pouvoir être serein et à exprimer comme David, mais j'ai un rocher dans le ciel. Mais il y a des moments où même David a rencontrer des difficultés à cause de la souffrance pour demeurer sur ce rocher ou pour aller sur ce rocher. Il exprime d'ailleurs dans un psaume où il dit « Conduis-moi sur ce rocher que je ne puis atteindre. » Donc c'était même une difficulté ainsi de pouvoir être sur ce rocher. Alors le psaume 34, 4, alors c'est le suivant. « J'ai cherché, je pense, le verset suivant. » Voilà, il y a deux numérotations en fonction des versions. Psaume 34,4, on va introduire avec cette pensée. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. David a pu le dire, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Voilà, c'est le 5 pour l'affichage. La numérotation en fonction des versions peut changer, mais Dieu ne change pas et la Bible ne change pas. Amen. Parce qu'on se rappelle bien que la numérotation, ça a été fait après. Hein. C'est pour ça, c'est pas grave si pour certains c'est 4, d'autres c'est 5. Ça a été découpé, mais la parole de Dieu, elle, c'est la parole de Dieu. Alléluia. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il a vécu cela. Et s'il a vécu que l'Éternel l'a délivré de toutes ses frayeurs, c'est bien qu'il en a eu. Il a été effrayé. C'est quelque chose pour un croyant qui n'est pas toujours évident d'avouer. Quand on nous demande le dimanche matin en rentrant à l'église, comment ça va ? Si ça va, on dit quoi ? Si ça ne va pas, qu'est-ce qu'on dit ? Pourquoi ? Alors si on se dit non, je vais lui mentir si je dis ça va, qu'est-ce qu'on dit ? Par la grâce de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Mais est-ce qu'on pourrait pas dire ça va pas ? Est-ce qu'on devrait pas dire ça va pas ? Est-ce que c'est un péché devant Dieu de dire ça va pas ? C'est difficile. Je souffre. J'ai mal. C'est dur. Quand on regarde la vie de Jésus-Christ et lui-même, il est noté. Par exemple, quand il a témoigné à la femme samaritaine, pourquoi est-ce qu'il était là au bord du puits ? Parce qu'il était fatigué. C'est la Bible qui nous dit, Jésus fatigué du voyage, il n'a même pas eu la force physique ni le courage, il était usé d'aller faire les courses avec les autres disciples, fatigué, devant le tombeau de Lazare. Quelle a été finalement l'attitude de Jésus et remarquée par tous ? Il a pleuré. Et les gens, ils ont été interpellés, ils ont dit, mais quand même, Jésus pleurait. C'est l'expression de son amour, tellement qu'il aimait. On le voit ému de compassion. Jésus, sur cette terre, a laissé sa divinité, sa gloire divine. Philippiens 2, verset 5 nous le dit. Il a abandonné cette gloire divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est fait un être, un homme, un simple homme. Un homme tout simple, dans toute son humanité. Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Mais il a vécu comme nous. Il a été fatigué, il a pleuré, il a souffert. La Bible ne nous le cache pas. Et j'aimerais, à travers un récit de la vie de David, qu'on puisse illustrer un peu cette pensée, voir que David, des fois dans la souffrance, cela a pu l'amener même à se perdre un peu dans les réactions, à ne pas réagir comme il aurait dû réagir. Dieu, lui, ne change pas et ne changeait pas déjà à cette époque, il était le même. Mais des fois, face à la difficulté d'une situation, d'une souffrance extrême, David ne savait plus lui-même comment réagir. Il a dû se reprendre. On va lire dans 1 Samuel, au chapitre 20, verset 41. Après le départ du garçon, David se leva du côté du sud, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna trois fois. Les deux amis s'embrassèrent, les deux amis pleurèrent, David surtout. Et Jonathan dit à David, « Va en paix. Maintenant que nous avons tous deux fait un serment au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit entre moi et toi, entre ma descendance et ta descendance pour toujours. » David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Amen. On lira la suite tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on remarque dans ces versets? C'est que David, au moment où il a dû fuir, parce que Saül, par jalousie, en voulait à sa vie. Quelle était la situation de David? Oh, il avait une renommée qui grandissait, on va le voir, qui dépassait même les frontières de son pays, puisque quand il a fui, on chantait, on savait que le chant du peuple d'Israël, c'était lorsque Saül en a vaincu 1000, David, dans ce même temps, en a vaincu 10 000. C'était là sa renommée. Et il était même avec cette pression. Est-ce que David, à ce moment donné, pouvait faillir? C'était celui qui emmenait l'armée, même de l'Éternel. Celui qui avait vaincu Goliath. Celui qui n'avait pas reculé, qui n'avait pas eu peur au nom de l'Éternel des armées. Il était connu comme cela. Et à ce moment donné, cet homme de Dieu, cet homme selon le cœur de Dieu, lui vivant une souffrance toute particulière, étant attaqué, on le regardait, il tiendra. Il ne peut pas faillir. C'est impossible. David, comment peut-il lui fuir devant l'adversité alors que devant Goliath, il y allait seul et il a vaincu, remporté la victoire. C'était inconcevable. Mais toute cette renommée exerce aussi comme une pression et finalement oblige même David à ne pas faillir. Et là, on voit que les deux pleurèrent, Jonathan, David, mais il dit surtout David. Et c'est là Jonathan qui lui a dit, au verset 42, juste après que David surtout pleura, la Bible le précise. C'est-à-dire que là, Jonathan a pleuré, c'est normal. Un chrétien, alors déjà un homme peut pleurer, oui, parce que des fois on se dit un homme ça pleure pas. Et même un chrétien, si Jésus lui a pleuré, Jonathan a pleuré, mais David surtout. Qu'est-ce que signifie ce surtout? C'est-à-dire qu'il y a un niveau de pleurs, finalement de découragement, d'abattement, sur lequel Jonathan a réagi normalement. Un ami intime, cet ami tel qu'il était. Il n'a pas réagi sans, en disant c'est rien. Non, il a été touché, interpellé, il a pleuré, brisé. Mais par contre, David, surtout, a pleuré. Plus que Jonathan. C'est-à-dire qu'il a été, il ne savait plus où il était. Là, par contre, il a été abattu. Et il s'est laissé avoir par un découragement d'une manière toute particulière. Plus que Jonathan. Jonathan a essayé de l'encourager. Verset 42, Jonathan dit à David, c'est Jonathan qui l'encourage, va en paix. Maintenant que nous avons fait tous les deux un serment au nom de l'Éternel, que l'Éternel soit entre moi et toi, entre ma descendance et ta descendance pour toujours. Jonathan, il avait cette promesse, cet avenir, cette espérance, la promesse de l'Éternel. Il s'était engagé à le suivre. Les deux descendances allaient être liées. Il a dit, mais qui pourra nous séparer ? La foi est demeurée ferme. David, il a été ébranlé, touché, d'une manière toute particulière. Mais il ne pouvait pas le montrer, si ce n'est à Jonathan, là où il pouvait être lui-même. Et peut-être que ce qu'avait besoin David tout particulièrement, c'était d'un Jonathan devant qui il pouvait être lui-même. Parce que devant les autres, il devait être David qui a vaincu Goliath. Devant Jonathan, il s'est permis de pleurer. Devant les autres, il ne se permettait sûrement pas de pleurer. Et là, il perdait celui devant qui il pouvait être lui-même, se confier, celui qui l'encourageait, devant qui il pouvait pleurer comme une madeleine, excusez-moi. Mais surtout, David pleura. Et il s'est dit, mais comment je vais faire ? Dans ma souffrance. Et il n'a plus su véritablement comment faire. Et comment cela s'est montré ? Il a continué, il est dit au chapitre 21, nous lisons ensemble. David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville, au verset 2. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Ahimelech. Ahimelech, c'est en fonction des versions, qui a couru en tremblant au-devant de lui et dit, « Pourquoi es-tu seul ? Et n'y a-t-il personne avec toi ?» Là, je lis ce sacrificateur. On le voit, avait pu garder la raison de l'intimité, il aurait pu s'ouvrir, se confier, dire là pleinement la vérité, mais de suite, il a repris sa façade de David. David qui ne pouvait pas être atteint, qui n'avait pas besoin qu'on puisse l'encourager comme cela. Et David répondit au sacrificateur Ahimelech, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fait connaître tel et tel endroit pour un rendez-vous à mes jeunes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main ? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes jeunes gens se sont abstenus de femmes. » David répondit au sacrificateur, « Toute femme nous est interdite comme auparavant quand je partais en guerre. Les armes de mes jeunes gens sont consacrées. Et si c'est un acte profane, il sera au moins consacré aujourd'hui par les armes. » Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on retire de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud le jour où on le reprend. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait retenu devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, le plus important des bergers de Saül. David dit à Ahimelech, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée ? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'affaire du roi était pressante. » Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée du Philistin Goliath que tu as tuée dans la vallée de Héla. Elle est enveloppée dans un vêtement derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a point d'autre ici. David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. David se leva et prit la fuite. Le même jour, devant Saül, il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays ? N'est-ce pas celui pour qui l'on a tourné en disant « Saül a frappé 1000 et David ses 10 000 ?» David prit à cœur ces paroles et eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il contrefit l'insensé sous leurs yeux et fit des extravagances parmi eux. Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme est fou. Pourquoi me l'amenez-vous ? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci faire ces folies devant moi ? Celui-ci va-t-il entrer dans ma maison ?» David partit de là et se réfugia, donc 1 Samuel 22, dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse et qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Il y eut avec lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla Mitzpé de Moab et il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère d'émigrer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Amen. La lecture est longue, je vous prie de me pardonner, mais c'est vraiment pour voir ce texte et s'inspirer, dire David, qui a été particulièrement touché, s'en est enfui. Et si, dans le texte que nous avons lu, Jésus lui-même a fait grâce à David pour les pains de proposition, lorsque on accusait ses disciples de manger ainsi, d'aller ramasser du blé, même le jour du sabbat, travailler, Jésus dit, mais vous voyez, même là, les pains qui étaient consacrés, ben, David les a pris pour opposer justement les pharisiens qui, eux, restaient d'une manière indéniable et eux, d'une manière irréversible, non pas sur le sens et la valeur de la consécration, mais sur simplement le sens et la valeur des habitudes et du sabbat. Jésus a pris l'exemple de David et finalement l'a réhabilité en disant même David s'est permis ainsi de manger ses pains consacrés quand il le fallait, mais Jésus n'a pas réhabilité la manière dont David s'est pris pour manger ses pains. Le fait qu'en fuyant, il ait faim, Ahimelech lui aurait donné, mais la raison invoquée, le mensonge invoqué par David, ça c'était le choix de David. Et la faim ne justifie pas le moyen. Ni la faim F-I-N, ni la faim F-A-I-M. Et on voit que David, dans cette souffrance, s'est mis à réagir sans savoir où il allait, instinctivement. Si Dieu est infaillible, nous le sommes. Nous sommes faillibles. Et notre instinct peut nous jouer des tours. J'ai emmené mes enfants hier après-midi, il y avait le salon de l'agriculture là, à Salon de Provence, et on a fait un petit tour, mais mon instinct d'orientation m'a joué des tours quand il a fallu trouver la sortie. Et j'apprends à me méfier, c'est pas facile, parce qu'un homme, de demander sa route, son chemin, c'est difficile. Je suis pas le seul. C'est les dames qui vont dire, est-ce que votre mari, c'est difficile lorsqu'il se perd, de demander à quelqu'un. Pour moi, c'est difficile. Il faut que j'essaye tous les moyens, c'est que je suis obligé. Ma femme dit, tu vois, je l'avais dit. Il y avait des personnes, déjà, on n'aurait pas perdu du temps, on leur aurait demandé, ils nous auraient indiqué, on serait déjà arrivé. Oui, mais je n'avais pas tenté toutes les solutions qui se trouvaient à moi avant d'arriver à la dernière solution, de demander de l'aide. L'instinct peut nous jouer des tours. Notre instinct, malheureusement, n'est pas toujours guidé par l'esprit de Dieu qui est en nous. On est des êtres spirituels, mais malheureusement, il peut nous arriver de réagir d'une manière pas spirituelle. On, on a cette attitude de se soumettre à l'Esprit de Dieu, mais il faut bien prendre conscience que par moment, on reprend un petit peu la barre. Et ce n'est pas évident, des fois, de se l'avouer. Et là, David, aucune raison, il était là, ne pouvait l'empêcher, et devant le sacrificateur, il a menti. Je viens pour une mission secrète, je suis envoyé par le roi, il m'a dit de rien dire à personne, c'est secret. Je suis avec tous mes hommes et mon armée. Tu dois nous aider. Alors, il les a aidés. Le fait de l'aide, comme je l'ai dit, Jésus l'a réhabilité et lui a donné raison. Mais la raison invoquée, on voit David qui, finalement, dans cette souffrance, peut-être à cause de ses pleurs, surtout David, ce découragement, cette incompréhension, cette souffrance et de la situation. Là où Jonathan a pu regarder les yeux fixés vers l'avenir, vers l'espérance, mais rien ne pourra nous séparer. Là, David a été bouleversé, comme détruit en lui-même. Et il a menti. Pour avoir mangé, pour demander de l'aide, et cette épée. Et vous avez remarqué, quelle épée est-ce qu'on lui a donnée ? Celle de Goliath. Le rapport est parlant. Est vraiment parlant. Et quelle a été la réponse de David ? Donne-la-moi, parce qu'il n'y en a pas deux. Pareil. C'est la meilleure épée. Heureusement, ce n'était pas ce qui l'habitait lorsqu'il est allé vaincre Goliath. Parce qu'avec sa fronde, ses quelques pierres, si ce qu'il était convaincu qu'il habitait, sa pensée, c'était cette épée, il n'y en a pas de pareil, et il aurait pensé à la manière dont cette épée allait lui trancher la tête. Il le savait. Mais là, ce David, il est bien différent. Donne-la-moi, elle va me protéger, il n'y en a pas deux, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Voilà ce qu'il me fallait, ce qu'il me faut. Est-ce qu'on n'est pas aussi rapidement enclin, des fois, à reprendre nos propres armes ? Et à lâcher facilement ces armes spirituelles dont nous devons nous revêtir. Vous les connaissez, pas les citer, rappeler, mais est-ce que par moment nous ne réagissons pas aussi comme David ? Et il continue, et dans sa fuite, s'appuyant que sur ses propres forces, sur des capacités humaines, sur cette arme de Goliath pour se défendre, ben. Vous savez, c'est un cercle vicieux. Et quand on met le doigt dans l'engrenage, il n'y a qu'un doigt, hein, mais on va y passer tout entier. Et là, il se retrouve à fuir. Où peut-il aller ? S'il retourne vers Saül, il va se faire tuer. Alors il fuit, il prend, et il dit, il faut que j'aille à l'étranger. Mais l'étranger, c'est les Philistins. L'étranger, c'est qui ? C'est Achish, le roi de Gath. Gath, c'était la tribu d'où était sorti Goliath. Ah ! Et lui, David, imaginez la folie, il va dans les frères et sœurs de Goliath, chez les frères et sœurs de Goliath, avec l'épée de Goliath. Comme triomphe. Mais on voit bien que David, sans l'Esprit de Dieu, excusez-moi, mais il n'était pas bien plus futé que vous et moi. Sans cette intimité avec Dieu, sans la puissance de la direction même de l'Esprit de Dieu. Et quand il en est arrivé, ben, sa renommée l'avait précédé. Voici celui qui en tue 10 000 alors que Saül lui-même n'en tue que 1 000 dans cette période. Alors la jalousie d'un côté, la renommée de l'autre, mais Achab, on l'a entre nous. Il n'avait qu'une solution. Il savait que dans cette tribu, ils ne tuaient pas ceux qui avaient perdu leur esprit, les possédaient, de peur que les esprits mauvais qui les habitent reviennent chez eux. C'est pour ça Gath, que Achish a dit, mais, Mais cet homme est fou quand David a fait des marques sur les linteaux des portes, a laissé couler sa salive sur la barbe. Mais vous imaginez cette image de David, c'est la Bible qui nous en donne. Elle est réelle. On l'efface, celle-là. On ne veut pas l'entendre parler. Pourtant, c'est la réalité. Il a tellement bien joué la comédie qu'ils y ont cru. Et encore une fois, et là, il a sauvé sa peau en étant fou, se faisant passer pour un fou. Alors quand la Bible nous dit que la folie de la prédication de la croix, ainsi, et la sagesse de Dieu, là, mais cette folie, c'est une folie pour ceux qui périssent, elle ne nous invite pas à chercher à passer pour des fous devant le monde du dehors. C'est pas, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas le leitmotiv de notre vie. On ne doit pas avoir une image de fou furieux. Vous êtes d'accord? Ils nous prendront pour des fous. Forcément. On ne pourra rien y faire. Parce que pour eux, on l'est. Mais on ne doit pas travailler cette image. Pour moi, c'est bien l'inverse. On doit leur montrer que bien qu'on est quand même fou et comme des fois, ils nous appellent fous de Dieu, c'est vrai que notre vie est consacrée à Dieu, on vit pour lui. Et ça, c'est une folie. Même si on proclame qu'on est certain que notre vie éternelle, on la passera avec Dieu parce qu'on est confiant dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix et son sang qui a coulé. Et cela, on le proclame. Chaque fois qu'on se rencontre, on place notre foi dans le sang de Jésus. Amen. C'est une folie pour les hommes. On est déjà des fous furieux, excusez-moi, de ce côté, on n'a pas besoin d'en rajouter. Et on ne doit pas travailler cette image. On doit bien au contraire, je pense, montrer qu'on est censé dans les choses normales de la vie. Parce qu'un croyant, la Bible nous dit authentique, il est même renouvelé dans son intelligence. Soyez transformés. Et donc, pour moi, je considère qu'un croyant devrait être plus sage qu'un non-croyant. Parce qu'il peut avoir une sagesse humaine, terre à terre, certains plus que d'autres, mais s'il lui en manque, la Bible nous dit de la demander à Dieu, qui donne à tous sans distinction. Donc en cela, si on manque de sagesse, on a une solution. Elle nous dit de demander sans douter, elle nous sera donnée. Et en plus, on a là cette capacité de réagir par l'esprit, ce discernement des choses que Dieu nous donne, cet avertissement même des prophéties. En cela, on devrait être beaucoup plus sage que ceux du dehors et savoir comment se conduire et réagir et pas se faire passer pour des fous comme David, parce que là, on voit bien que si David aurait dit, ah, de toute façon, moi, c'est l'esprit qui me guide et ce que je pense ou comme j'agis, c'est l'esprit qui m'a dit. Si c'était cela, sa réaction, est-ce que l'esprit l'aurait réellement amené à mentir? Il y a un bug là déjà. À ne pas être vrai? À ne pas être sincère? Et là, j'aimerais attirer votre attention sur des fois notre réaction, comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, ça va. Je crois que la foi doit être sincère, mais vis-à-vis de Dieu. Dans la Bible, ce mot sincère, une fois j'ai lu, ça m'a interpellé, ça m'a intéressé. Il viendrait de l'expression sans cire, parce qu'il y avait là des blocs de marbre, il me semble, hein, qui étaient taillés dans la masse pour des constructions. Et ces blocs de marbre, certains étaient fendus, ils n'étaient pas intègres, mais plutôt que perdre et voir le prix des blocs qui n'étaient pas en bon état s'effondrer, ben certains commerçants, pas très recommandables, calfeutraient les fissures avec de la cire pour les vendre comme cela, comme s'ils étaient un bloc entier et bien solide. Et donc, on devait dire sur le marché pour dire non, 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 ça, je vous assure, il n'y a pas de cire dedans. C'est des blocs ainsi, sans cire, qui est venu sincère. on ne doit pas calfeutrer et montrer une image de ce que l'on n'est pas. Et je pense que pour s'aider les uns les autres, on a tout intérêt aussi à pouvoir être des David et Jonathan, à pouvoir aider mon frère en l'autorisant à pleurer devant moi, à lui dire « ça va pas », en lui disant pas toujours « non mais quand même reprends-toi, bah, avec Dieu ça va toujours ». Parce qu'il l'entend, il le croit et il sait très bien qu'il ne pourra jamais venir dire « mon frère, ça va pas ». Parce qu'il aura l'impression que l'image que vous aurez de lui, c'est quelqu'un qui n'est pas spirituel. Et donc, ça va l'amener à mettre de la cire comme cela sur lui. Ça va, ça va, ça va toujours bien. Même quand ça va pas, ça va quand même. Et si ça va vraiment pas, par la grâce de Dieu. Et quand je vois là où cette cire, alors c'est une interprétation que je vous donne ce matin sur l'attitude de David et sur la raison, mais je pense qu'elle tord pas la parole de Dieu dans la succession des événements, mais là où David en est arrivé, je me dis, Seigneur, c'est un exemple, et dans la vie de David, il y a des contre-exemples, donne-nous de savoir comment réagir. Et par la grâce de Dieu, si Dieu lui a fait grâce à David encore, où là, le roi de Gath l'a chassé de son royaume, il a pris la bonne attitude. Jésus nous dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre. Et finalement, dans notre chambre, si on a une image à tenir dehors de notre chambre, on n'a plus d'image. Dans notre chambre, on peut mettre le pyjama qui nous plaît. Et même si quelqu'un qui a toujours la cravate, vous ne savez pas si je n'ai pas un pyjama Mickey chez moi. Comprenez, on peut être nature. Vrai, j'en ai pas. Vous n'allez pas dire au salonnet. On peut être vrai. Rentre dans ta chambre, ferme la porte. Là, dans le lieu secret, ton père te le rendra. Sincère. On a besoin de ces moments. Et Jésus est cet ami devant lequel on peut être totalement vrai, mais on a besoin de ses amis. Et c'est là la communion fraternelle devant lesquelles on peut être vrai. En tant que pasteur, je rends grâce à Dieu parce que j'ai des amis. Depuis que j'ai débuté dans le ministère pastoral, on était là, trois jeunes célibataires dans la région Rhône-Alpes, et même si, par la grâce de Dieu, Dieu ne m'a pas donné de vivre le célibat dans le ministère aussi longtemps que votre très cher pasteur, Joël Prudent. Mais pendant quelques années, j'étais là et on était ces trois célibataires. On priait ensemble aussi pour la suite de notre vie même affective et dans le ministère. Et on s'est mariés, ces trois amis, la même année. J'en grâce à Dieu parce que je me suis posé la question, j'étais le premier à marier, je dis mais si je me marie, est-ce que ça va changer les relations? Et on s'est retrouvés bien amis, et nos épouses aussi. Je dis parce que c'est important, c'est primordial. Et ça permet, parce que je vous dis cela à vous, mais entre pasteurs, des fois, c'est pas toujours évident de dire à un autre pasteur, ça va pas. C'est pareil, hein, je vous prends pas de haut. C'est la même chose. Mais je rends grâce à Dieu parce que là, j'ai des amis, et même des fois, les épouses appellent une autre épouse et dire, tu sais, est-ce que tu ne pourrais pas dire à ton mari d'appeler ainsi mon époux sans lui dire que je t'en ai parlé? Parce que là, ça ne va pas. Et donc, l'autre appelle et dit, alors, comment ça va? Et je peux dire à mon ami, ça ne va pas. Je sais que ça ne sortira pas et il ne me sermonnera pas, il ne me dira pas, mais quand même, avec Dieu, ça va toujours. Il va me demander, alors, qu'est-ce qui se passe? Il a prié avec moi, je sais que là, il a prié, puis il va me dire, tu sais, est-ce que c'est vacances, est-ce que tu ne veux pas venir, on passe un moment de vacances ensemble, puis on va prier ensemble. Et ainsi, et c'est précieux, Et là, David s'est retrouvé dans la caverne d'Adullam. Ça a été sa meilleure solution. Et on a lu, on a terminé par cette phrase, jusqu'à ce que je sache ce que l'Éternel fera de moi. Ah, ça change. Il a botté un peu en touche jusqu'à ce que je sache. Mais on remarque que dans cette caverne d'Adullam, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les rejetés, tous ceux qui souffraient sont venus le voir. Là, peut-être il a appris la leçon et il a été là, un ami, il a pu entendre. Peut-être que son discours a changé, là où il était le David qui paraissait et devant lequel peut-être on ne s'ouvrait pas, là il est devenu le David devant qui, si on avait la souffrance, on allait venir. Et cette armée qu'il a montée, c'est l'armée, excusez-moi, des éclopés, de ceux qui avaient besoin d'être guéris, remontés. Des fois, je me dis, l'Église, elle doit être un hôpital spirituel. Et il y a des soignants et des soignés. Et avant de soigner, il vaut mieux être soigné soi-même. Parce que si on voit arriver une infirmière qui est plus malade que nous, à l'hôpital, on est inquiet. Ou plus inquiète que nous aussi. Mais l'Église doit avoir cette fonction. Et on doit favoriser cette fonction. Et on sait que même si un hôpital a une mauvaise réputation, souvent j'ai remarqué que les hôpitaux avec de mauvaises réputations, on est bien mieux accueillis que dans ceux qui ont une bonne réputation. Et il y a un côté social bien là. Alors, il faut que ce soit une bonne église avec une bonne doctrine et savoir où l'on va. Mais c'est important aussi, savoir bien accueillir. Et vous lirez la suite, hein, c'est important parce que là, David est reparti. Lui qui a fui, il est reparti remporter des victoires. Saül voulait l'attraper d'un côté. Il y avait les Philistins qui voulaient l'attraper, mais lui faisait des incursions pour délivrer des villes. Saül entendait qu'il était là. Hop, il envoyait son armée. Bon, David se retirait juste et il continuait à combattre pour Saül. Saül voulait le tuer quand même, mais avec le discernement spirituel, l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il consultait l'Éternel. Et on voit, et vous lirez dans ce chapitre 22 et 23, David consulte l'Éternel. Il répétait, David consulta l'Éternel. Et quand il y a eu un doute parmi le peuple, David consulte l'Éternel. Ah, c'est bien David différent de celui qui a fui sans savoir où il allait et qui s'est fait passer pour un fou. Alors, dans la souffrance, Dieu lui ne change pas. Amen. Il règne. Il demeure le même. C'est un rocher sur lequel on peut se fonder, en qui nous pouvons nous confier. Mais nous, nous changeons. Et si on peut être des chrétiens très très spirituels, même le chrétien le plus spirituel, il peut à un moment donné être un petit peu déstabilisé même dans ses pensées, se mentir à lui-même, parce que des fois on ne peut pas être vrai avec nous-mêmes, on n'est même pas vrai avec nous-mêmes, ça c'est dramatique. Et choisir des fois des directions, des réactions que Dieu ne voudrait pas pour nous. Il nous fait grâce. Même si on manque de sincérité, des fois, de vérité, il nous fait grâce. Ce n'est pas parce qu'on dit « oui, ça va » alors que ça ne va pas, et il ne nous punit pas. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on veut faire mieux. Et dire « Seigneur, que je puisse vraiment là te consulter. » Avoir cette sensibilité. Et puis, comme je vous invitais, permettre peut-être à mon frère, à ma sœur, d'être vrai aussi avec moi. De laisser passer ça. Vous savez, c'est à travailler et dire, Seigneur, pour que la personne puisse un jour, si ça ne va pas, venir me voir et me dire, frère, ça ne va pas. J'ai besoin de vous prier pour moi. Et si elle le fera, si elle sait qu'elle ne se prendra pas simplement, mais écoute, t'as qu'à prier. Et ça ira. Avec Dieu, ça va toujours. Donc, Seigneur, fais-nous grâce et aide-nous à aller de l'avant. Amen. Notre Dieu, nous voulons te remercier parce que David, cet homme selon le cœur de Dieu, a eu des moments aussi de difficultés et de réactions, Seigneur, pas idéales dans sa vie. Mais merci parce que tu lui as fait grâce. Et merci parce que nous savons que tu nous fais grâce. Mais lorsque les circonstances de la vie viennent nous secouer, nous ébranler, notre Dieu, donne-nous de pouvoir nous réfugier, oh oui, dans ta présence. Seigneur, David, alors qu'il était là au plus mal, les malheureux l'ont rejoint. Et peut-être qu'ils ont trouvé là une compréhension particulière. Donne-nous, Seigneur, peut-être de comprendre aussi une situation difficile, de souffrance délicate que l'on traverse, comme un apprentissage pour être capable d'entendre ceux qui souffrent aussi, les accompagner, de les relever, Seigneur, de les accompagner à s'appuyer sur toi, à rechercher ta face, à rechercher ta volonté, ta présence, Seigneur, à se laisser relever, conduire par le Saint-Esprit. Merci pour ton Église, Seigneur, dans cette Ouest Provence. Et nous te prions pour toute cette région que tu nous as confiée, Seigneur. Oh, donne-nous d'être là les dignes représentants de qui tu es. Que le monde entier puisse voir que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Amour que nous avons les uns pour les autres. Te prions pour le témoignage, Seigneur. Oh, nous savons que le monde ne finira pas de nous prendre pour des fous de Dieu. Mais Seigneur, ça nous l'acceptons. Et nous voulons être critiqués de petits Christ, de chrétiens. Père éternel, cela, au contraire, cela nous réjouit que le monde voit que nous sommes réellement à toi. Mais donne-nous, Seigneur, de savoir attirer, comprendre aussi, soigner, Seigneur, ceux qui viennent détruits par ces circonstances de la vie. Glorifie-toi, Seigneur, dans cette ville d'Istres. On prie pour toute cette ville, Seigneur. De prier, Seigneur, pour tous ces croyants qui sont là. Sers-toi d'eux, Seigneur, pour ta gloire, pour le salut des âmes. Remettons, Seigneur, cette réunion de cet après-midi, deux personnes qui vont s'engager avec toi, Seigneur. Quelle gloire, quel bonheur. Nous voulons te dire un grand merci. Amen.